On va parler, il y a quelqu'un qui a parlé de la SNCF, il y a qui ? Ah, un accord sur les fins de carrière des cheminots a été signé par les quatre syndicats. Un truc jamais vu, hein. Il y a CGT Cheminots, UNSA Ferroviaire, CFDT Cheminots et même Sudrail. Ils sont unanimes, ils sont tous d'accord, ils ont tous signé un accord qui prévoit, et entre autres,
pas signé,
une amélioration du dispositif de retraite anticipée, en particulier donc pour les cheminots ayant occupé des postes à pénibilité avérée. Ces derniers, dont font partie les conducteurs, pourront donc entamer une cessation anticipée d'activité 30 mois avant leur retraite, avec 15 mois travaillés rémunérés à 100% et 15 mois non travaillés rémunérés à 75%. Alors, je n'ai pris que cet exemple-là. Mais moi, franchement, alors évidemment, tout le monde y va avec son petit préavis de grève. Hein. Il y a donc la RATP, il y a les pilotes, il y a les pompiers, il y a les policiers municipaux. Tout le monde va y aller parce que tout le monde dit bah, c'est le moment ou jamais, hein, sinon on va faire la grève pendant les JO. Moi, je propose, les gars, que les syndicats de la SNCF aillent rediscuter la dette de la France avec l'Europe, parce que au niveau de négo, ils sont au top.
Le lapsus.
Ils sont au top. Non, mais franchement, ils sont au top. Et ils ont réussi à faire un truc de fou quand même. Non, mais vous avez vu ça? C'est incroyable, quoi. Ça t'a pas sidéré?
Non, parce que
ça t'a pas sidéré.
D'abord, c'est une entreprise qui est mise en concurrence maintenant. Donc, pour le coup, il va y avoir une nécessité de fonctionner dans un système concurrentiel. Je veux pas dire que j'étais pour. Je pense que de toute façon, le service public des transports aujourd'hui en France ne fait que se dégrader, que cette privatisation n'est pas une bonne idée. En l'occurrence, tu vois ici notre réseau de transport. Sur la ligne qui fait Marseille-Briançon, elle est tellement dépassée, tellement en mauvais état, que la question de savoir si le cheminot, etc., moi je pense que la question c'est les investissements. Donc,
on s'en fout des investissements.
Mais...
Là, moi, je te parle de ce chantage qui est mis par, par la SNCF pour éviter donc, qu'il y ait des grèves. Ils font ce chantage-là et c'est validé.
Tu as une chose.
C'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique.
Tu oublies. Moi qui ai négocié des accords. D'ailleurs, on m'a assez critiqué, la CGT, parce qu'elle signe jamais, elle signe jamais, elle signe jamais. Alors qu'on en signe 85%, il le sait. Tu le sais, puisque combien d'accords j'ai signé sans aucun problème, sans trembler. En l'occurrence là, tu pointes les syndicats.
Évidemment.
Oui, mais il y a...
C'était ça, de toute façon, c'est ça, on fait la grève.
C'est qui a proposé l'accord? C'est bien les directions de l'établissement.
Bah oui, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais parce qu'ils n'avaient pas le choix.
Ils n'avaient pas le choix, rien ne les empêchait de leur proposer.
Il y a les ponts qui arrivaient là, c'était déjà super tendu. Là, on est tranquille jusqu'en septembre.
Ils ont négocié.
Et on aura peut-être une grève au mois de décembre.
Et ils ont signé un accord.
Parce qu'ils vont peut-être en mettre une couche. Enfin, moi, je trouve ça vraiment.
J'y étais pas.
Franchement, ça me sidère. Voilà.
Alors, en bon militant patronal, franchement, et en aimant le paritarisme, jamais je ne critiquerai un accord. Non, parce que ça, c'est pas bien, parce que c'est quand même... On se distingue en France de cette capacité qu'ont les entreprises et leurs collaborateurs discuter dans un cadre qui est...
Ne critiquons pas... Ne critiquons pas l'accord, critiquons la manière dont ça s'est fait.
Eh ben, c'est ce que j'allais dire. Moi, tu m'entendras jamais critiquer un accord, parce qu'un accord, à un moment donné, ce sont deux parties qui ont une discussion qui est un petit peu raide, et ils se disent, tiens, on va essayer de trouver une position commune, et quand ils l'ont trouvée, ils signent. Il y a toujours un qui est un petit peu plus fort que l'autre, c'est-à-dire un qui pousse et l'autre qui retient. Et à un moment donné, il y a celui qui pousse, il dit, bon, ok, c'est bon, la force qui me retient, elle est assez forte pour que je puisse me dire et que je dise à mes troupes, on a assez poussé, et donc on se met d'accord. C'est comme ça. Là, celui qui pousse, c'est la partie salariale, avec des organisations syndicales qui sont en position de force, il faut le reconnaître, mais les conditions de cette position de force, celles-ci, elles se discutent. Mais n'empêche que le droit de grève, il existe en France. Tant qu'il n'y a pas de loi qui dit « on interdit le droit de grève », tout ce qu'ils ont fait, c'est juste. Là où un accord peut être critiqué et critiquable, mais moi j'en connais pas, puis personne n'en connaît, parce que sinon il serait dénoncé, c'est quand il y a un des deux parties qui triche, qui ment, qui arrive par une forme de violence à faire en sorte que l'autre recule ou que l'autre pousse, etc. Non, ça, c'est pas juste. Non, on n'y est pas. Non, 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 parce qu'il n'y a rien, d'illégal dans ce qui a été fait. Après, la question qu'on peut se poser, et là, je la pose, parce que ça, c'est important, parce que je disais tout à l'heure, en tant que militant patronal, je me me pose la question de la justesse de cet accord par rapport à tous les accords qui pourraient se faire et qui, ou qui ne pourraient pas se faire à cause de cet accord en France. Et des retombées justement sur ce que les gens peuvent penser de la SNCF, parce que ça, ce que je dis là, on n'est pas beaucoup à le penser. Hein. Il y a beaucoup de Français qui disent « c'est pas normal, c'est encore pour les meubles, les nantis, etc. » Et justement, la responsabilité de ceux qui font des accords comme celle-ci, elle n'est pas sur le fait qu'ils aient trouvé un accord ou pas, parce que s'ils en ont trouvé un, c'est très bien, ça c'est juste. Mais sur les retombées de cet accord. Et là, ça, ça m'ennuie. Parce que je me dis, qu'est-ce qui pêche en France ? C'est quand l'État se saisit, on l'a vu pour les retraites, mais on l'a vu pour plein de trucs, hein, de l'incapacité des partenaires sociaux de négocier. Et donc, ça veut dire quoi ? C'est quand il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire que tous les gens qui sont sortis dans la rue pour les retraites, c'est parce qu'il y a eu un échec des négociations. Absolument. Entre les patrons et les syndicats. Absolument. Et là, on l'oublie de le dire, mais moi je me dis, le président de la République, quel qu'il soit droite ou à gauche, à un moment donné, il dit, bah bon, je prends la main, eh ben, je fais ce que je veux. Ouais. Et il a raison de faire ce qu'il veut. Parce que ça, c'est pas injuste et c'est la loi. Là où il y a une responsabilité dans cet accord dont il faut se saisir, c'est les Français, en voyant ça, et en tout cas tous ceux qui n'ont pas la possibilité dans leurs entreprises, parce qu'il n'y a pas d'organisation syndicale représentative, et s'il n'y en a pas, c'est pas parce que les patrons ils disent il faut pas qu'il y en ait, hein.
C'est parce que le nombre, il y a des obligations
légales. Les patrons, quand à partir d'un certain nombre de salariés, sont obligés de faire des actions. Ouais. Combien il y en a qui ont des PV de carence? Ouais. Il y en a plein. Pourquoi? Parce que les salariés ne se saisissent pas. Absolument. de l'opportunité qu'ils ont. Exactement. C'est pour ça que là, sur ce coup-là, j'étais d'accord avec toi, Christophe. Ne se saisissent pas de l'opportunité qu'ils ont de faire valoir leur voix, parce que ils se rappellent que les organisations syndicales, quand elles se distinguent pour quelque chose qui n'est pas très très collectif. Parce que comme je le disais tout à l'heure, l'économie c'est un système de vases communicants. Et ça c'est pas très très juste. Parce que quand on est dans une entreprise publique, semi-publique, ou presque publique, ou quand on est dans une entreprise qui a un monopole, eh ben, c'est sûr qu'on va s'en mettre plein les fouilles à tous les niveaux, de façon pas forcément proportionnelle, mais on va s'en mettre plein les fouilles à tous les niveaux. Mais la vie en France économique, même si elle est belle, hein, parce que moi je trouve que franchement on vit dans un beau pays, mais il y a quand même plein d'entreprises. Dans le BTP, c'est difficile, hein, c'est difficile dans le BTP, pour qui que ce soit, pour les patrons, pour les salariés. Dans le nettoyage, je vais parler surtout du nettoyage, puisque je le connais, on n'est pas dans des métiers où on s'en met plein les fouilles. Hein.
Après, juste
franchement, je me dis, dans ces métiers-là, l'hôtellerie-restauration, je les ai cités tous les trois, pourquoi ? Parce que ces trois métiers à eux seuls, c'est plus de 600 000 personnes. Mmh. Chacun. Ça veut dire que c'est 1,8 million de personnes. Sur les 20 millions de salariés, ça pèse. Hein. Et ben, ce ne sont pas des métiers où on a un monopole, où on peut se permettre de faire n'importe quoi avec les organisations syndicales ou avec le patronat. Et on n'aura jamais, nous, ça. Jamais, jamais, jamais. Et ben, moi, j'aimerais un jour que ceux qui ont la possibilité de bien se servir, et tant mieux pour eux, jouent un petit peu plus collectif. Et comme ça, dans les autres entreprises, et ben, on aurait la possibilité de faire des accords qui seraient un petit peu plus sympathiques pour nos salariés. Voilà.
Moi, je précise juste un truc, c'est que cette année, enfin 2023, la SNCF a fait 1,3 milliard de bénéfices. En 2022, elle avait fait 2,4 milliards de bénéfices. Tout à l'heure, on parlait du groupe Stellantis. La personne, en l'occurrence Carlos Tavares, elle récupère 36 millions et vous avez parlé de prime moyenne par salarié de 4 000 euros, etc.
Dans l'automobile. Bah,
excusez-moi, mais si en fait le groupe fait 1,3 milliard de bénéfices, pourquoi les salariés en fait ne négocieraient pas leur part dans cette contribution qui a été la leur, c'est-à-dire leur travail? Je trouve qu'en fait, si tu veux, la SNCF, c'est un peu celui sur lequel on tape facilement.
Mais tu veux du train partout?
Mais sauf que la
baisse le prix des billets et tu n'auras pas un milliard.
Excuse-moi.
Parce que c'est ça le problème.
Oui, mais justement,
baisse le prix des billets. Moi, je suis pour le train.
Tu vois pas ce que ça coûte, le train.
Tu
le prends de temps en temps.
Ah ben, je le prends souvent. Sans compter les subventions.
Oui, mais d'accord. Mais sauf que de l'autre côté, effectivement, il y a des bénéfices qui sont faits, donc en l'occurrence, on leur a demandé d'être sur le secteur concurrentiel, on leur dit maintenant vous allez être concurrencé par des Italiens, des Espagnols, etc., des Allemands.
Je suis d'accord, on est sur la fin d'un processus.
C'est une entreprise qui commence à jouer avec les mêmes cartes, donc ils font des bénéfices, ils commencent effectivement à jouer comme une société capitalisée, et en l'occurrence, elle va aller sur ce domaine-là. Est-ce que c'est une bonne chose ? Ma réponse, elle est non. Mais on peut pas se dire que, en l'occurrence, les salariés ne jouent pas le même rôle que dans un groupe comme Stellantis, etc. Donc là-dessus, je pense que c'est juste que c'est plus
visible.
C'est
pour ça que je l'ai pas critiqué. Toi, t'es d'accord maintenant, t'étais pas d'accord tout à l'heure, que moi, j'ai le même discours. Pour moi, c'est normal quand on est dans une entreprise qui gagne de l'argent,
c'est pendant ce temps-là, et pour finir là-dessus, le le patron de la SNCF, comme c'est encore une entreprise publique, il est plafonné son salaire à 1 pour 20. Voilà. Donc en fait, il ne peut pas toucher plus que 20 fois le salaire minimum. En l'occurrence, bien. Ça fonctionne plutôt bien, parce que je ne pense pas du tout que le patron de la SNCF soit plus mauvais que Carlos Tavares. La preuve, il dégage des bénéfices, 1,3 milliard cette année. En l'occurrence, il arrive à faire à rouler ses trains, etc. Ouais. Les investissements ferroviaires, ce n'est pas la même chose. Parce que les investissements ferroviaires, ce n'est pas la
point,
même chose.
Il y a un point, que vous n'avez pas abordé. Que je tiens quand même à dire, si les patrons de la SNCF ont signé l'accord, c'est qu'ils y trouvent un intérêt.
Bien sûr.
Et je trouve que ce qui...
Ah oui, ils vont vendre des billets.
Non.
Ça va tourner pendant trois mois sans grève, dis donc.
Non, c'est pas ça.
C'est un bel intérêt.
C'est pas ça. Ça, c'est l'intérêt immédiat que toi, tu vois, Thierry. Mais regarde un peu plus loin. Il y a des départs. Il y a des départs à la retraite, là.
Ah oui, mais j'ai
vu. Oui, il y en a plusieurs milliers. Est-ce qu'ils seront remplacés? C'est la question que je pose.
J'en sais rien. Si,
ben oui,
non, mais les départs, c'est...
Je sais pas.
C'est la question qu'il faut se poser. Je suis certain que s'ils ont signé cet accord, c'est que ça leur permet également de faire du vide dans l'entreprise. Toujours le pognon. Ouais. Et la privatisation...
Non, mais tu peux pas faire du vide.
Il ne faut pas discuter l'accord.
Et par rapport à ce que tu as dit sur le gouvernement tout à l'heure...
Tu ne peux pas faire du vide à la SNCF, tu as des trains qui tournent, tu as besoin de personnel.
L'exemple des retraites. L'exemple des retraites, où tu as très justement dit, c'est le gouvernement qui est passé en force.
Mais non, il va passer en force, c'est la loi, c'est comme ça.
Oui, non, mais
si les partenaires sociaux ne sont pas d'accord, il faut bien que quelqu'un dise.
Oui, mais le gouvernement, ils ont proposé un accord qui ne pouvait pas être négociable par les partenaires sociaux. Donc, il est passé en force. Ah. Non, il y avait refus, même de la CFDT. Hier, il était en France Inter, il a réexpliqué pourquoi.
Non, il y avait un des partenaires sociaux qui n'était pas d'accord. Est-ce que les patrons, ils étaient d'accord ou pas?
Le patron, je ne sais pas. Mais les syndicats, ils étaient unanimement contre, y compris la CFDT.
Donc,
hier, Berger a réexpliqué pourquoi, parce qu'il était interrogé là-dessus en direct sur France Inter. Il a très bien expliqué. J'ai un contre-exemple à ça. Aujourd'hui, le gouvernement veut faire la troisième réforme de l'assurance maladie. Il n'a pas engagé la négociation, là. C'est le gouvernement qui impose sa vue aux organisations syndicales. Aucune organisation syndicale.
Tu peux pas dire ça parce que la sécurité sociale et tous les autres organismes autour avec les retraites, etc., sont des organismes paritaires. Tu peux pas dire que.
Mais
s'il intervient, c'est parce qu'à un moment donné, il constate des déficits et qu'il se dit.
L'assurance maladie.
Ça va, tout va bien.
Mais l'assurance maladie n'est pas en déficit. Il n'y a pas de déficit.
L'assurance maladie, il n'y a pas de.
Je te jure.
D'accord. Je vois pas l'assurance maladie, ce qu'elle vient faire là.
Pardon. Je ne parle pas de l'assurance maladie. Je te parle de l'assurance chômage.
Oui, mais oui.
Mais toi, t'étais sur l'assurance maladie. Il y a un truc que j'ai loupé là.
Il vient de changer.
Ah, d'accord.
Non, je te parle du chômage.
Alors, le chômage est déficitaire ou excédentaire?
Excédentaire.
Aussi. Ah, d'accord.
Non, je te parlais. Je me suis trompé.
Ah, il me semblait bien.
Si je parlais
de
l'assurance maladie. L'assurance maladie déficitaire.
Ah, mais ça va, ok.
C'est la troisième réforme qu'ils font. Troisième réforme, coût sur coût, qu'ils font sur l'assurance chômage, avec des conséquences pour le développement économique de notre département. Dieu sait si c'est un sujet que je connais bien.
Mais tu ramènes tout à l'argent quand même. Hein. Parce que tu crois vraiment que l'État... Pardon, je te coupe, j'aime pas ça. Donc j'espère que tu ne m'en voudras pas. Mais ça me gêne quand même de faire croire que l'État, il fait une réforme parce qu'il gagne de l'argent. Non.
Non, il fait une réforme parce qu'ils veulent pénaliser les demandeurs d'emploi. Ils prétendent que les demandeurs d'emploi sont au chômage parce qu'ils ont bien envie.
Donc l'argument du fait qu'ils soient excédentaires n'a rien à voir. Eh ben, donc là, moi, personnellement, parce que je pense aussi aux salariés, je trouve que dans une société comme la société française, où il y a beaucoup d'entreprises dans tous les secteurs qui cherchent des collaborateurs, quand on est en déficit de trouver des collaborateurs, ça vaut le coup, à un moment donné, de rappeler à ceux qui sont dans un pays où ils ont la chance, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays comme ça, tous les pays n'ont pas la chance d'avoir une assurance chômage comme la France, ça vaut le coup, mais il y a une façon de le dire, parce que moi je ne suis pas en train de dire que tous les chômeurs sont des gens qui restent devant le canapé.
Soyons prudents, parce qu'il y a un problème.
C'est pour ça que tu ne me le feras pas dire.
Il y a un problème d'adaptation.
En revanche, tu sais, il me semble, on est tous pareils, on est tous comme ça. C'est-à-dire que moi, si demain, je devais me retrouver au chômage, tu me dis, t'as 6 mois devant toi, tu me dis, t'as 3 mois devant toi, tu me dis, t'as 1 an devant toi, ben, il me semble que la manière dont je vais m'y prendre, ça ne sera pas la même. C'est comme quand moi, j'ai un souci avec ma trésorerie. Si je vois que devant moi, j'ai 3 mois d'excédent, si je vois que j'ai 6 mois, si je vois que j'ai un an, je réagis pas pareil.
Ça, je suis pas d'accord avec toi.
Pas du tout.
Non, mais c'est Pierre-Louis qui t'a dit.
Laissez-le voir.
Non, mais Pierre-Louis, il y a un élément que tu n'as pas pris en compte. Je veux aller au bout de ma démonstration.
Juste pour le dire, je suis pas d'accord avec toi. C'est que oui, c'est Pierre-Louis qui.
Il y a aujourd'hui, tu le sais très bien, tout un volant de salariés saisonniers dans notre département. Tu as parlé tout à l'heure des la restauration, il y a les saisonniers des remontées mécaniques, etc. etc. Aujourd'hui, il y a déjà eu une réforme qui pénalise les salariés saisonniers, qui les pénalise. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus, en une saison, ils n'arrivent plus à alimenter leur compte pour pouvoir bénéficier de l'assurance chômage. Et on va encore complexifier le problème. Et après, les mêmes s'interrogent pourquoi ils ne trouvent pas de saisonniers l'hiver ou l'été pour travailler. Eh bien... L'explication, là.
Mais tu as raison, si tu ramènes tout aux saisonniers, tu as raison. Mais ben t'es pas obligé de tout ramener aux saisonniers. Tous les chômeurs sont des saisonniers ?
Non, ah, mais il y a une partie.
Oui. Et donc, c'est combien, 10%?
C'est pour ça. Combien? Je ne sais pas, 10-15%. Oui, voilà. C'est pour ça que je milite.
Parce qu'avant, on disait qu'il coûte très cher. Mais moi, je ne te parle pas des saisonniers. Les saisonniers, on en a besoin, pas de souci. Mais les autres,
Je milite pour qu'on mette en place, et là, je termine là, je milite pour qu'on mette en place un dispositif d'indemnisation des salariés saisonniers, comme ça a existé il y a 10 ans en arrière, qui permettent d'avoir un régime à part sur ces salariés-là dont on a besoin pour faire fonctionner l'économie du tourisme notamment.
Juste un truc.
Merci.
Ce débat-là, précisément, tu vois, c'est assez marrant. On a tourné beaucoup autour de la question du chômeur. C'est à l'échelle de notre société, s'il y en a certains qui en profitent, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Pierre-Louis, sur l'idée que... Moi, j'ai déjà été au chômage. Hein. Mon idée, c'était vite d'en sortir. Hein. Ce n'est pas de rester à 3 mois, 6 mois, 1 an et demi. Enfin, j'ai pas du tout cette perspective-là.
Le vite, il y a 50 nuances de vite.
Mais personne n'a envie de rester au chômage.
C'est pas ce que j'ai dit.
Non, mais oui, mais sauf qu'en fait, souvent, le débat, il tourne autour des profiteurs. Pour moi, les principaux profiteurs.
Au contraire, j'ai dit le contraire.
Oui, mais c'est justement.
Attends, il y a Michel qui voudrait aussi dire quelque chose.
On a un grand débat aujourd'hui sur qui profite dans la société. Et souvent, ce gouvernement notamment s'amuse à expliquer que c'est le chômeur, c'est le petit salarié, c'est ce machin. En vérité, les plus gros profiteurs, c'est ceux justement dont on parle jamais. Et personne n'a l'air d'être très choqué de ça. Franchement, moi, je suis moins choqué par le fait que la SNCF. Mais bien sûr que c'est Tavares, bien sûr que c'est Arnaud, bien sûr que c'est LVMH, bien sûr que c'est tout ça. Bien sûr que c'est tous ceux qui défiscalisent. Bien sûr que c'est Total qui paye pas d'impôts en France. Ça, c'est les plus grands responsables en fait de l'intégralité de nos problématiques. C'est pas le chômeur qui profite de 200 ou 300 euros. Arrêtons d'être complètement fous dans notre analyse. Mais c'est
si t'emmerdes Total, il part de France. Si t'emmerdes le chômeur, il partira pas de France.
C'est tellement plus simple de cibler justement notre voisin parce que lui, on le connaît. On peut effectivement le critiquer. On peut assumer les critiques qu'on porte. Le reste, c'est imperceptible. Mais c'est là en fait que se joue, à mon avis, la situation mondiale et la question notamment de notre économie. Qui part en vrille complète sur la question de la distribution de la richesse.
Michel ?
Alors, c'est vrai que le balancier, il est d'un coup d'un côté, puis de suite de l'autre côté. Il est juste milieu, il est où là ?
Juste milieu.
Et non, c'est toi qui l'as dit. Je pense qu'à, je sais pas, il y a un moment donné, effectivement, il faut mettre le pied à l'étrier des chômeurs. Les chômeurs, c'est pas forcément, on l'a pas choisi, on est bien d'accord.
Ben non.
Sauf que quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit qu'il y a des chômeurs de longue durée, c'est pas moi qui l'invente, c'est ça, ça existe. Et que pour le coup, il y a un moment donné, le travail, par définition, c'est aussi un épanouissement. Vous l'avez dit, en termes économiques, sur notre PIB, il faut absolument, comme le disent certains, il faut plus travailler en France, pas ceux qui travaillent. Mais derrière, il faut aller effectivement chercher des ressources là où il y a le bas blesse. Je ne suis pas en train de faire un procès d'intention contre cela et cela. J'en sais rien. Très sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Par contre, trouver de bonnes solutions qui, à un moment donné, permettent à chacun, notamment en difficulté et au chômage, de retrouver, de renouer. Il y a plein d'organisations. Tiens, plein dedans, toi, Jean-Claude. De renouer avec les vertus du travail. Eh ben ouais, il faut trouver ça. Mais on ne l'a pas, ça.
Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette émission.
Ça fait 3 heures qu'on est là, à peu près.
1h30.
J'ai l'impression. Ça a changé de format depuis 2 ans.
C'est l'avantage du
podcast.
C'est l'avantage du podcast.
Ah, mais on n'est déjà plus en direct depuis longtemps. ça fait longtemps que Thierry fait plus
direct. Il y a 10 ans.
J'étais pas né, moi, quand vous étiez direct. Hein.
Il y avait la bouteille de whisky au milieu.
Ah non, mais alors c'était l'époque.
C'était avant, ça.
Très vieux, ça.
C'était l'époque où j'étais pas encore là.
Je l'ai pas connu, moi.
Non, moi, je suis plutôt dans la bière, voyez-vous. Je suis plutôt dans le houblon. Bon.
Parce que la bière, dans la bière, bon.
Ouais. Oui. Bon, bah, écoutez,
c'est une bonne nouvelle quand
sur ces bonnes paroles, eh bien, je vais vous abandonner. Allez, au mois prochain. Et merci encore à vous
merci
tous.
Merci à tous. Hein.
Merci ouais. Christophe Pierrel.
Merci Christophe.
Merci, merci Michel tous, Roussel, hein. Pierre-Louis Rouny et Jean-Claude Hérault.
Au revoir.
Au revoir.
Ciao,
au revoir.
Ciao.